Le balado de développement professionnel vous propose un survol rapide des éléments essentiels des projets de développement proposés par votre association professionnelle. Ces projets sont pour la plupart financés par le ministère de l'Éducation ou par un organisme paragouvernemental. Vous avez manqué un webinaire? Pas le temps de participer à un réseau d'apprentissage professionnel? Intéressé par un projet particulier, mais vous aimeriez avoir un avant-goût des contenus avant de vous engager dans une démarche plus longue? Le balado vous fournira les bases essentielles dont vous pourriez avoir besoin. Vite fait, bien fait. Voilà la ligne directrice de cette série balado. Bienvenue chez vous.
Bonjour, mon nom est Benoît Dussault. Je suis le directeur général de votre association professionnelle, l'ADFO. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Leadership Éthique, une série de balados créée par les trois associations de direction de l'Ontario, soit OPC, CPCO et, bien entendu, l'ADFO. Dans ce balado, nous examinerons le leadership scolaire sous l'angle de l'inclusion, de l'équité et de la lutte contre l'oppression et son influence sur la réussite éducative des élèves, et plus particulièrement les impacts sur l'apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers. Nous espérons que cette série aidera les directions et les adjoints des écoles à mieux comprendre comment une connaissance approfondie de leur propre identité peut mieux les préparer à apprendre et à comprendre les élèves qu'ils accueillent, ce qui se traduira par la création d'environnements d'apprentissage plus inclusifs et plus équitables. En tant que direction ou adjoint, notre mandat est de créer le meilleur environnement d'apprentissage possible pour chaque élève. Mais pour y arriver, nous devons comprendre qui nous sommes en tant qu'individus. Alors, lorsque j'exerce mon rôle de direction d'école, comment mon identité personnelle fondée sur mon parcours est-elle différente de celle de ma communauté scolaire? Comment les préjugés qui m'habitent influencent-ils mes actions? Comment est-ce que je peux veiller à la réussite éducative de chaque élève et créer un climat de bienveillance? Alors, pour cet épisode, nous avons réuni les voix de quatre directions et directions adjointes qui œuvrent dans des milieux franco-ontariens. Alors, nous avons la voix de Liam Bauer, qui est du Conseil scolaire Providence, celle de William Ngassam et d'Anselme Kenge, tous deux du Conseil Mon Avenir, et enfin celle de M. Gabriel Drouin, du Consortium Centre Jules Léger. À ces quatre interventions de direction d'école, nous avons ajouté les voix de Mme Nadia Rousseau, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que celle de M. Yves Gérard Méo-Loco, qui, lui, est commissaire en équité et en droit de la personne au CPO. De plus, vous entendrez la voix de Mme Sylvie Tessier-Lacroix, qui est leader d'efficacité au CECCE. Chacun d'entre eux apporte une riche expérience et une diversité de points de vue à cette discussion. Voici un premier témoignage de Mme Sylvie Tessier-Lacroix, leader d'efficacité au CECCE.
Alors moi, dans mon rôle en tant que direction d'école, il y a plusieurs années déjà, j'ai fait face à une situation avec un petit garçon à l'école qui avait eu un écart de comportement. Et puis, le petit garçon est apporté au bureau après la récréation, puis on passe à travers du processus de questionnement à savoir pourquoi il y a eu cet écart de comportement et puis un peu c'est là, les conséquences logiques qui viennent avec le geste inapproprié ou le geste inacceptable. Et puis, pendant que je parle au petit garçon, le petit garçon ne me regarde pas. Et puis, j'ai une discussion avec lui et je veux vraiment qu'il comprenne. Alors, j'insiste qu'il me regarde dans les yeux et qu'il écoute ce que je dis pour que je puisse voir qu'il a compris. Et je lui explique tout ça. Et le petit garçon n'a jamais voulu me regarder dans les yeux. Et personnellement, comme personne en autorité, j'étais vraiment pas choquée. J'étais surprise que l'enfant ne m'écoutait pas et ne me regardait pas dans les yeux pour vraiment bien comprendre ce que je lui disais. Parce que son langage non-verbal me disait qu'il comprenait. Dans le sens que oui, il hochait la tête, oui, il avait l'air comme s'il avait compris, mais le contact des yeux n'était pas là. Donc, j'ai pris ça comme vraiment un refus à l'autorité. Et peut-être ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que c'était une famille d'origine libanaise. Alors là, je me questionne encore plus à savoir, j'ai peut-être manqué quelque chose au niveau culturel auquel je n'avais pas pensé avant. on parle de défi de pratique au lieu de problème. Parce qu'un problème, c'est quelque chose qu'on doit résoudre. Hein? Et un défi de pratique, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a juste pas appris encore. Mon défi de pratique, qu'est-ce que j'ai à apprendre, comme je disais tantôt, pour bâtir ma capacité, devenir meilleur, pour ensuite aller inspirer les autres à faire la même chose.
Entendons maintenant M. Liam Bauer, direction d'une école élémentaire du Conseil Providence.
J'avais une élève de 8 ans là, qui s'est identifiée transgenre dans une école élémentaire. Et pour moi, ça m'a déstabilisé un peu parce que c'était une petite communauté. Et c'est à ce moment que faire, hein, comme l'élève se confie à la direction pour dire, écoute, je m'identifie comme ça, je me sens née fille, je me sens garçon, je suis garçon en fait, et j'aimerais aussi accès à telle chose, j'aimerais accès au salle de toilette, j'aimerais accès à peut-être au vestiaire, j'aimerais savoir exactement tout ce qui, tous mes droits là, et comme d'avoir cette prise de conscience à cet âge-là, c'est vraiment comme un jeune adulte. Et donc, avec des discussions avec des parents, avec on a une conseillère en équité, des choses comme ça, et on s'est jasé. Puis évidemment, ça, on veut respecter toujours la dignité de la personne et le bien-être de la personne. Et à la fin de la journée, on a bâti une très bonne relation où l'élève se sentait à l'aise de venir m'en jaser, de parler de ses besoins. Grâce aux élèves avec qui je travaille ou mon personnel, mes collègues parfois, comme ils me mettent dans une position où je dois me questionner. Est-ce que mon point de vue sur une certaine chose est un point de vue privilégié? Est-ce que j'ai vraiment une vue d'oiseau de tout ce qui se passe et tous les enjeux? C'est quelque chose qu'il faut se questionner souvent là-dessus. Parfois avouer que, OK, j'ai un peu d'ignorance ici et que fais-je et comment est-ce que je m'informe et à qui est-ce que je peux faire recours. Parfois, on se fait dire. Il y a des personnes qui viennent te voir et dire, as-tu jamais pensé à ce que tu as dit? As-tu jamais pensé à comment cela peut être perçu? As-tu jamais pensé? Et dans ces moments-là, il faut écouter. Il faut prendre un pas de recul, faire une prise de conscience. On n'est pas dans une position où on peut se dire ignorant. On n'est pas dans une position où on peut dire qu'on est plus conscient et consciente. Si on prend pas ces prises de conscience et on pense pas à toute notre clientèle et à qui on est en train de servir, que ce soit à cause de la race ou LGBTQ ou autochtone, ainsi de suite, si on fait pas cette prise de conscience-là, vraiment, on fait pas notre travail et notre boulot.
Dans ce prochain extrait, M. William Ngassam, directeur au Conseil scolaire Mon Avenir, nous partage son vécu à titre de direction d'école racisée.
Si lors d'une réunion, lors d'une assemblée, tu veux présenter certains éléments, tu peux avoir comme l'impression ceux avec qui tu essayes prête beaucoup l'oreille à écouter, justement, et je reviens sur le mot doute. Souvent, c'est dû à la langue, à l'accent, à la race. Souvent, ça peut être dû au fait de n'avoir pas vécu dans la culture dans laquelle on se trouve pour une grande partie de sa vie. Aussi, il y a certaines situations, quand on prend des postes de responsabilité, on peut se rendre compte qu'on a des collègues qui vont questionner beaucoup, qui vont questionner ce qu'on fait, qui vont questionner les initiatives qu'on apporte. Donc, on peut voir qu'il manque, il y a peut-être une confiance qui n'est pas là dès le départ, mais qui peut par la suite s'établir. Et on dirait vraiment une course, hein, une course où tu commences un peu en arrière des autres parce que tu as l'impression que dès le début, tu dois prouver davantage, que les autres. C'est ce sentiment-là que j'ai souvent eu dans le cadre que j'ai souvent eu vu dans le cadre de notre travail. Comme personne racisée, moi, j'utiliserais d'abord cela plus pour être un impact, pour avoir une lumière pour ceux peut-être qui ne croient pas. Je pense que au côté motivation, c'est très très important. Si je prends, par exemple, l'exemple d'une école dans laquelle je travaille, je vois le profil de nos enfants, je vois le profil des élèves, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, comme personne racisée, quelqu'un qui a peut-être une expérience différente de quelqu'un qui a eu un cheminement ordinaire au niveau du Canada, je dois être cette personne-là. J'ai envie de refléter pour que, justement, d'autres personnes qui me ressemblent avec cette identité, peu importe l'identité, pourraient s'inspirer. Donc, je veux être, j'aimerais être cette source d'inspiration, aller déclencher la flamme. Est-ce que le doute, c'est un doute réel? Ce genre de réponses vont me guider. Et comme je disais encore, se référer aux alliés, c'est toujours important de discuter. Donc, pour moi, c'est de rester vraiment ouvert, apprendre à sortir de cette zone de confort et savoir que ne rien prendre de personnel, comprendre que j'ai autant à donner qu'à apprendre. Donc, pour moi, c'est encore le donner, le recevoir, la culture d'apprendre davantage à connaître ceux avec qui on traite, ceux avec qui on travaille, de vivre la réalité des autres d'une certaine façon, comme on dit, se mettre dans leurs souliers pour comprendre.
Monsieur Anselme Kenge, directeur adjoint au Conseil Mon Avenir, nous inspire en utilisant son identité à titre de levier pour influencer sa communauté scolaire.
Pour moi, particulièrement, ce que je constate, c'est qu'on ne peut pas parler de profil sans parler d'identité. Parce que même lorsque les enseignants, le personnel éducatif se met ensemble pour penser au profil des élèves, pour bâtir c'est quoi qui caractérise un élève, comment on peut faire pour donner un point d'accès, des points d'accès à tous les élèves. On parle de profil de classe, mais selon moi, mais c'est lié à son identité. Qu'est-ce qui fait que cet élève apprend de cette façon? Qu'est-ce qui serait facile pour cet élève de mettre en place qui peut l'aider? Comment peut-on faire pour vaincre les barrières, pour rompre les barrières qui empêcheraient un élève d'être épanoui? Parce que généralement, on parle d'éducation, on parle d'apprentissage sans penser au bien-être. C'est très important, le bien-être, l'épanouissement. L'élève qui est fier, qui est épanoui, qui est content d'être là où il est, qui se sent aimé, qui se sent valorisé, qui sait qu'on l'encourage pour l'aider à vraiment réussir et à s'affirmer en tant que personne, en tant qu'identité capable d'être un citoyen dans la société actuelle. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je pense que le fait que je suis issu d'un groupe racialisé a une influence sur le message que je peux véhiculer. Beaucoup de personnes ont tendance à toujours peut-être placer les gens dans des paniers catégorisés. Parfois, ça arrive malheureusement. Mais en étant un modèle que je suis, un leader modèle qui prêche pas l'exemple, moi, je pose des actions que j'ai conscience que ça influencera les gens qui sont autour de moi. Au quotidien, mon pouvoir se manifeste par les actions que je pose, par le service que je rends aux personnes. Ça les incite à rendre aussi service. Donc, comme je dis, je prêche pas l'exemple. Je crois que j'ai des pouvoirs ou des privilèges. Moi, je pense qu'il y a un pouvoir qui est associé à mon rôle. Le pouvoir d'influencer, le pouvoir de faire bouger les choses, le pouvoir de contribuer au changement avec tout ce que nous savons aujourd'hui, comme je disais tantôt en termes de conception universelle dans l'apprentissage, en termes d'éducation inclusive. J'ai le pouvoir, je sais que j'ai le pouvoir d'influencer les choses. Je pense que c'est plus facile pour nous, notre communauté francophone, en Ontario, étant déjà donné qu'on vit le fait d'être minoritaire, c'est plus facile pour nous d'être des personnes qui acceptent toute différence, toute minorité, visible ou invisible, venant d'un groupe ou venant des personnes différentes. Parce que nous avons déjà en nous, nous vivons déjà une situation où on devrait être solidaire parce qu'on est très, très minoritaire. Donc, on comprend ce que c'est que d'être, je ne vais pas dire stigmatisé, mais que de vivre quelque part où on sait que notre voix n'est pas forcément celle qui va beaucoup être écoutée. Du coup, personnellement, selon mon expérience, on est plus sensible, on a l'oreille plus attentive lorsqu'il y a des personnes différentes à côté de nous.
Monsieur Gabriel Drouin, directeur de l'École provinciale et des services consultatifs au consortium Centre Jules Léger, nous parle de l'importance de bien connaître sa communauté scolaire.
Au fil du temps, moi, j'ai été directeur blanc dans plus d'une école racisée, vraiment où la majorité des élèves étaient racisés. Moi, je suis le directeur blanc. Ce contexte-là, maintenant, me rend mal à l'aise. J'ai un malaise avec ça en ce moment. Pourquoi? Dans le sens que ma perspective, justement, elle est blanche. Ma perspective n'est pas nécessairement celle qui est représentative des élèves ou de ma communauté scolaire. Et je dis pas que je devrais pas nécessairement être là, mais j'ai un certain malaise avec le fait que la personne blanche serait vraiment à la tête d'une école racisée. Même dans le même sens, je suis mal à l'aise quand j'ai travaillé dans les écoles élémentaires, surtout dans les écoles élémentaires, et j'ai surtout travaillé en éducation spécialisée. Puis dans ces deux contextes-là, c'est surtout des femmes qui travaillent dans les écoles élémentaires, puis en EED. Et j'ai aussi un certain malaise de dire, OK, moi, je suis un des seuls hommes qui est au sein de cette communauté, mais moi, je suis à la tête de cette communauté ou de cette équipe scolaire-là. Et c'est certain que l'approche que j'ai prise va vraiment dépendre de la culture et de la communauté que je suis là pour desservir. C'est la culture de l'école qui va vraiment déterminer le style de leadership que je vais avoir quand même. C'est la communauté aussi qui va pouvoir déterminer si le style de leadership répond ou non. C'est intéressant aussi comme une façon de voir le leadership qui... Comment surmonter l'inconfort? As-tu déjà eu d'inconfort? C'est correct d'être inconfortable. On peut se donner des trucs ici et là pour avoir de la résilience, là, mais comme on peut être correct dans l'incertitude finalement. Bien apprendre, puis mieux apprendre et de développer des habiletés interculturelles dans toutes ses formes, mais aussi il faut avoir de la compassion pour soi-même en tant que direction d'école. On est tous en apprentissage, absolument. Tout début, au centre de cette planification, qui sont les personnes devant nous? Puis, qu'est-ce qu'on est en train d'organiser là? Comment est-ce qu'on va répondre à leurs besoins?
Pour conclure ce premier balado, Mme Nadia Rousseau et M. Yves-Gérard Méouloko soulignent que la richesse de nos communautés scolaires repose sur la diversité de ces acteurs.
Et souvent, là, sans mauvaise intention, on va poser un geste mais en fonction de notre lecture d'une compréhension, de notre lecture d'une situation. Puis notre lecture, elle n'est jamais neutre. Notre lecture, elle est toujours influencée par notre histoire personnelle. Puis il faut aussi admettre que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour vraiment là, embrasser la diversité. Fait que ça me place dans une situation d'apprenant qui doit, au fil du temps, continuer de développer cette grille de lecture-là. Puis pour faire ça, ben ça prend beaucoup d'ouverture. Ça prend de la curiosité, ça prend de l'ouverture, ça prend de la flexibilité. Parce que quand je m'ouvre à d'autres grilles de lecture, ben je me mets aussi un peu en danger. Hein? Parce que parfois, c'est mes valeurs qui sont peut-être en confrontation, c'est peut-être des croyances qui sont en confrontation. Fait que moi, je dirais que c'est un travail perpétuel. Mais quand je suis dans une valeur qui est négative, une valence négative, j'ai plus l'espace pour vraiment et pleinement réfléchir. Alors, le pas de recul, d'être conscient puis de dire « Oups, attention, danger, je suis ici, là, dans une de mes zones de vulnérabilité », avoir ça en tête, juste en être conscient ou le conscientiser, ça va me permettre de réfléchir autrement. Le syndrome de l'imposteur, on peut le voir comme une limite, mais on peut aussi le voir comme une force. En fait, dans un monde pluriel, dans des écoles plurielles, je crois que c'est plus possible de s'identifier ou de prétendre avoir une bonne connaissance ou une expérience similaire aux élèves que l'on croise, aux familles que l'on croise, au personnel enseignant avec qui on travaille. Et donc, lorsqu'on accepte d'aller écouter les élèves, mais les écouter pour vrai, puis écouter leur famille pour vrai, ben on est en train d'apprendre, puis on est en train de les respecter parce qu'on ne s'improvise pas spécialiste d'eux. On tente de comprendre. Puis, célébrer la diversité, ça veut aussi dire qu'on ne s'intéresse pas à la diversité seulement quand nous, on a une relation conflictuelle avec cette diversité-là. Mais on s'intéresse à la diversité à tous les jours. On la célèbre. De mettre en place des pratiques qui misent et qui reposent sur l'ouverture à l'autre. Donc, de briser les silos pour permettre aux gens de travailler ensemble, de se découvrir, d'apprendre l'un de l'autre. Quand on travaille dans un contexte inclusif, avec une visée de réussite éducative, donc une réussite qui ne se calcule pas uniquement à la performance scolaire, ben on n'a pas le choix de s'intéresser à l'élève et non pas uniquement au curriculum. Si ces enfants-là et ces adolescents-là n'étaient pas là, le curriculum n'aurait plus de fonction. Alors, c'est essentiel de toujours s'attarder à la personne apprenante pour faire vivre le curriculum et non pas pour imposer un curriculum.
La direction, l'équipe de direction des écoles doit jouer un rôle et joue actuellement un rôle qui est extrêmement important dans le développement d'un environnement qui est inclusif. La raison est quand même assez évidente. Ils sont les leaders de l'école. Ils sont celles et ceux qui vont outiller essentiellement les enseignants, les employés qui sont au plus proche de la clientèle, donc des élèves et des familles, pour que ceux-ci atteignent justement la capacité de maintenir une proximité et de développer en collaboration avec les familles un environnement qui est inclusif. Donc, la compréhension de cette identité va vous permettre d'identifier aussi les biais que vous pouvez avoir, de les déconstruire, ces biais-là, et donc, par le fait même, de construire une personnalité et de construire une identité qui est plus au fait des différences culturelles, ethnoculturelles, religieuses, d'orientation sexuelle, du genre, et donc d'être beaucoup plus ouvert et inclusif. Cela va vous permettre ultimement quoi? Cela va vous permettre d'être en mesure d'identifier au sein de votre communauté scolaire les opportunités de croissance. On demande aux directions, dans toutes les rencontres de supervision avec les membres du personnel et les membres de ses équipes, de son équipe, bien de leur demander, de leur rappeler de faire ce travail-là. De ne pas corriger la lentille, de ne pas demander à la personne « donne-moi ta grille d'évaluation, je veux la voir ». Non, on lui dit « rappelle aux membres de ton équipe de faire ce travail-là, de faire ce travail individuel, parce que le développement d'un environnement inclusif, d'une école inclusive, d'une communauté scolaire inclusive, passe tout d'abord par un travail individuel des gens qui offrent le service. Ce qui est important dans ce bien-être des élèves, c'est que celles et ceux qui sont garants de leur bien-être, que sont leurs enseignants, respecte aussi donc l'orientation que se donne l'école ou que se donne le conseil scolaire. Si le conseil scolaire s'est donné comme orientation d'aller vers l'inclusion, d'aller vers l'équité, de développer un sentiment d'appartenance de la part des élèves et de la part des membres de la communauté scolaire, il sera important pour la direction d'être intransigeant quand il s'agit de manquements à ce cadre-là. Sa compréhension plutôt et son appréciation de sa communauté scolaire doit primer, plus que son identité à elle en tant que personne. Parce que la personne va avoir une ouverture d'esprit, peut être un allié, ne jamais, jamais oublier ce rôle-là que vous jouez auprès d'eux et auprès de membres de votre communauté scolaire, parce qu'il y a des parents aussi qui vont y voir également un modèle pour eux. Donc, il y a un devoir de la part du leadership de s'assurer de maintenir une cohésion dans son idée originale de nommer cette personne-là, mais de le soutenir dans la réalisation de son mandat.